Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir tout le monde. Il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de La Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et ayez toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi de commentaires, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point.
La Voix de l'Indonésie. Les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. L'Indonésie a nié une réunion avec l'Israël à Jakarta. 44 pays participeront au processus de Bali. Les rebelles ne doivent pas être laissés. Le ministère de la Recherche, la Technologie et l'Enseignement supérieur a dit « Les universités ne doivent pas être spectateurs du marché libre. » La Belgique s'intéresse à développer et gérer le port Patimban à Suban. Et enfin, l'accord commercial entre l'Indonésie et l'Australie. Voici le journal complet. Le gouvernement indonésien, via le ministère des Affaires étrangères, a nié l'existence de l'accord avec l'Israël sur la visite du ministre des Affaires étrangères, Mme Retno LP Marsudi, à Jérusalem pour rencontrer les hauts fonctionnaires israéliens, en plus de l'investiture du consul honoraire de l'Indonésie en Palestine. Le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, Armanata Kristiwanasir, a déclaré jeudi que le plan et la préparation de la visite du ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a été effectué par l'intermédiaire d'une voie diplomatique officielle par l'ambassadeur d'Indonésie en Jordanie et en Palestine depuis le décembre 2015, non pas par l'intermédiaire en accord avec le gouvernement israélien.
Menurut artikel tersebut bahwa ini merupakan suatu kesepakatan.
Selon l'article, qu'il y avait un accord, je veux souligner que tout d'abord, il n'y avait pas de réunion entre le ministère indonésien des Affaires étrangères avec le gouvernement israélien au sujet de la visite du ministre indonésien des Affaires étrangères à Ramallah. Deuxièmement, je veux souligner qu'il n'y avait pas de discussion encore moins d'accord avec le ministre indonésien des Affaires étrangères concernant la visite à Jérusalem avec la partie israélienne. Armanata Kristiwanasir a souligné que le gouvernement indonésien a préparé plusieurs projets liés à la visite du ministre indonésien des Affaires étrangères à Ramallah en Palestine, dont l'un est à l'aide d'un hélicoptère appartenant à la force aérienne de la Jordanie qui se rendrait au bureau de la présidence de la Palestine et non par voie terrestre qui doit passer par les points de contrôle israéliens. Plus tôt, le sous-ministre israélien des Affaires étrangères, Zipi Hotovelli, a déclaré devant le Parlement israélien que l'Israël interdit le ministre indonésien des Affaires étrangères à visiter Ramallah parce que l'Indonésie a violé un accord confidentiel entre les deux pays. Selon Zipi Hotovelli, avant la visite du ministre Retno Marsudi en Jordanie, la division de l'Asie du ministère israélien des Affaires étrangères, Mark Soffer, a visité Jakarta pour rencontrer le gouvernement indonésien. Mais cela a été nié de nouveau par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Armanata Kristiwanasir. Selon Armanata Christian Nasir, le but principal de la visite du ministre Retno Alpemarsoudi en Jordanie et en Palestine est tenir une réunion bilatérale avec le premier ministre de la Jordanie, le ministre des Affaires étrangères et le président palestinien, et pour inaugurer le consul honoraire de l'Indonésie en Palestine, Maha Abu Shusse. Le forum régional du processus de Bali qui se tiendra à Nusa Dua, Bali, les 22 et 23 mars 2016, seront assistés par 44 pays. Le processus de Bali est un forum régional pour renforcer la coopération, faciliter la discussion et diverses questions liées à la traite des êtres humains, la contrebande humaine et les crimes contre l'humanité. À la conférence de presse tenue le jeudi 17 mars 2016 au ministère des Affaires étrangères Jakarta, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Armanata Krishwanasir, a affirmé que ces 44 États sont les pays membres et observateurs. En outre, 6 organisations internationales ont exprimé leur volonté de participer.
Per hari ini, itu ada 44 negara yang telah konfirmasi akan hadir, baik anggota maupun observers.
À partir d'aujourd'hui, il y a 44 pays ont été confirmés pour être présents, soit des membres et des observateurs, et 6 organisations internationales. Le nombre de ministres qui y assisteront est 13, 8 sous-ministres et le reste au niveau des hauts fonctionnaires. En outre, Armanata Krishwanasir a expliqué, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, et son homologue de l'Australie, Julie Bishop, seront coprésidents de ce forum. Le 21 mars 2016, Julie Bishop se rendra en Indonésie pour faire les derniers préparatifs du processus de Bali et discutera également des questions bilatérales entre les deux pays. Les questions qui seront soulevées sont liées au commerce, l'investissement et les échanges d'étudiants. Cette année, le processus de Bali aura lieu pour la 6e fois depuis sa première édition en 2002. Le ministre de la Défense, Ria Mizat Riakudu, a dit que les séparatistes ne devraient pas être autorisés à continuer à exister en Indonésie. Il croit que chaque soulèvement a été orchestré par l'autre pays. Selon Ria Mizat, si en Papouasie, la mise à feu de groupes armés persiste, les gens seront toujours hantés par la peur. Ria Mizat a également mentionné l'importance du programme de défense de l'État qui peut résoudre le problème de la nation à travers l'attitude instillée dans ce programme. Le ministère de la Défense lance une activité Gebiar Aku Indonesia qui est une socialisation de l'activité de défendre l'État pour les jeunes indonésiennes avec des approches artistiques et culturelles. Une telle activité sera tenue d'avril à décembre 2016 aux diverses régions d'Indonésie telles que les villes Batu, Surabaya, Semarang, Palembang, Sorong, Medan, Banjarmasin, Pontianak, Bandung et Jakarta. Le ministre de la Recherche, la Technologie et l'Enseignement supérieur, Mohamad Nasir, demande les écoles supérieures de ne pas être spectateurs dans leur propre pays d'envisager la compétition dans le marché libre. Mais elles devraient être en mesure de fournir la concurrence, l'innovation, améliorer la qualité et être en mesure de rivaliser dans le monde d'affaires. Mohamad Nasir, lors de l'inauguration de l'École supérieure d'économie d'être l'Université Prasetya Mulia jeudi à Serpong-Tangerang, Banten, a déclaré qu'en Indonésie, il y a plusieurs 134 universités publiques et 4200 universités privées. Ceci devrait encourager le progrès technologique et les affaires. Il souhaite que les universités puissent créer l'innovation, la créativité et la compétitivité dans le marché libre d'ASEAN, aussi bien ceux en Asie et à l'Europe. Le gouvernement belge a exprimé son intérêt à développer et gérer le port Patimban à Subang, Java West. Ce port deviendra un port international. Il est désigné comme un remplacement du port Cilamaya à Karawang, Java West, qui est échoué à construire. La secrétaire d'État pour le commerce étranger et l'investissement pour Bruxelles de Belgique, Cécile Jodogne, a déclaré jeudi à Bandung qu'il avait reçu des informations que le port Patimban sera financé d'investissements du Japon. Néanmoins, il y a la possibilité pour la coopération dans le développement et la gestion. Cécile a expliqué, elle peut apporter une contribution dans le développement du port Patimban, car un certain nombre d'entreprises belges ont réussi dans la gestion des ports à Singapour et Dubaï, l'Émirat arabe uni. L'Indonésie et l'Australie ont convenu de réactiver l'accord global de partenariat économique Indonésie-Australie pour construire des partenariats mutuellement bénéfiques en priorisant la créativité et l'innovation. Le ministre du Commerce, Thomas Lembong, dans un communiqué, a affirmé jeudi que la réactivation de l'accord global de partenariat économique Indonésie-Australie est faite sur deux principes principaux. D'abord, l'Indonésie et l'Australie vont assurer que l'accord global de partenariat économique Indonésie-Australie se déroule bien et fournit les résultats maximums dans les échanges de biens et de services, la coopération de l'investissement et de l'économie, ainsi que des avantages pour les deux parties. Le deuxième principe, l'accord devrait également être construit en prêtant attention aux accords multilatéraux et régionaux, ainsi que des précédentes négociations entre les deux pays. Thomas Lembong a expliqué, comme la première étape, les deux pays ont convenu de donner mutuellement les résultats qui ont été obtenus par l'intermédiaire des accords de libre-échange. Sergita, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Sexième longtemps, voici donc le commentaire et pour le titre, le nouveau président de la Birmanie a un espoir de renforcer la coopération avec l'Indonésie. Après quelques décennies sous un chef de la junte militaire, enfin le peuple de la Birmanie a le président de civil. Son nom est Ashtin Kyaw. Il était le candidat de la Ligue nationale pour la démocratie, LND, dirigée par l'icône de la démocratie de la Birmanie, Aung San Suu Kyi. Auparavant, la chambre haute, la chambre basse et la faction militaire au Parlement nommaient Ashtin Kyaw et Henry Van Thieu du parti LND et Min Sui de la faction militaire. Dans le compte de vote, Ashtin Kyaw, ami d'enfance d'Aung San Suu Kyi, a été élu sous les applaudissements par 360 voix sur un total de 652 députés. Dans une conférence de presse à Jakarta récemment, le président Joko Widodo a exprimé sa félicitation au président élu Ashtin Kyaw de la Birmanie qui faisait partie du processus de transition démocratique et politique en Birmanie. Le monde enregistre comme une nouvelle histoire en Birmanie depuis près de 50 ans, dirigée par une junte militaire. Les gens de la Birmanie entrent dans une nouvelle phase dans la vie de l'État, bien qu'ils rêvent que Aung San Suu Kyi deviendrait un président. Basé sur le système juridique en Birmanie, un candidat présidentiel dont les enfants sont de nationalité étrangère est interdit d'être président. Comme on le sait, que Suu Kyi se marie avec un scientifique britannique, le défunt Michel Harris, leurs fils ont des passeports britanniques. Cependant, Suu Kyi avait été témoin, Ashtin Kyaw, figure de son parti LND, a été démocratiquement élu en tant que nouveau président de la Birmanie. L'Indonésie espère, bien que le président élu Ashtin Kyaw sera en mesure de conduire la Birmanie dans un meilleur état. Le peuple de la Birmanie pourrait vivre dans une situation plus prospère et confortable. Pendant ce temps, les relations de la Birmanie avec l'Indonésie, qui ont existé pendant une longue période, seront en mesure de continuer à améliorer tant au niveau bilatéral, régional et international. L'élection de Ashton Yeo comme président de la Birmanie marque l'histoire, est un nouveau chapitre de la démocratie en Birmanie et est aussi le début d'une vie meilleure pour son peuple. Les politiciens et le peuple doivent le faire comme un bon moment pour éviter le mode social et les troubles politiques qui peuvent apparaître plus tard, comme cela est arrivé dans les pays voisins tels que la Thaïlande et le Pakistan. Serviteur, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Ces amis, écoutons maintenant notre rubrique L'Histoire d'aujourd'hui, l'édition du 8 mars. Nous allons commencer le 18 mars 1974. Les pays d'Arabe, sauf la Libye, ont terminé l'embargo du pétrole. Les pays d'Arabe, les producteurs du pétrole, ont commencé leur embargo pétrolier contre les États-Unis, la Grande-Bretagne et d'autres pays qui vendent le pétrole à Israël au 17 octobre 1973. L'embargo a été fait face à l'aide américaine et britannique militaire massivement aux sionistes dans la guerre entre ce régime avec la Syrie et l'Égypte qui a commencé le 6 octobre 1973. Le lendemain de l'annonce de l'augmentation du prix du pétrole par l'OPEP, les pays arabes ont annoncé embargo contre les États-Unis, la Grande-Bretagne et Israël. En conséquence, le prix du pétrole devient plus élevé. Les pays occidentaux avaient de grandes difficultés à la suite de cet embargo. Et cette période est appelée choc pétrolier. Le 18 mars 1974, cet embargo a été retiré après le secrétaire d'État des États-Unis, Henry Kissinger, a réussi à négocier un accord entre Israël et la Syrie. Cet incident prouvait que les pays du Moyen-Orient ont une âme puissante pour faire pression sur les États-Unis et l'Occident en général afin de ne pas continuer de protéger le régime sioniste. En séance le 18 mars 1965, première sortie dans l'espace pour un cosmonaute. Relié à la navette Foscot 2 par un cordon, la soviétique Alexei Leonov flotte pendant une quinzaine de minutes dans l'espace. Il est le premier homme de l'histoire d'effectuer une sortie dans le cosmos. Le 3 juin de la même année, l'Américain Edward White réalisera une sortie similaire de 20 minutes. On termine le 18 mars 1970, coup d'État à Cambodge. Le maréchal Long Nol, soutenu par les États-Unis, renverse la monarchie et instaure un régime militaire au Cambodge. Le contexte régional dominé par la guerre du Vietnam est alors chaotique. Long Nol sera chassé du pouvoir par la Khmer Rouge de Pol Pot 5 ans plus tard. Ses amis, c'était aujourd'hui dans l'histoire, l'édition 18 mars. À demain.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers fidèles auditeurs, auditrices, bonsoir. Merci de votre fidélité d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter la mise au point et pour le titre, l'Indonésie et la Belgique ont convenu d'intensifier la coopération économique. Le président indonésien Joko Widodo a accepté la délégation du Royaume belge mardi 15 mars au Palais Merdeka Jakarta dirigé par la princesse Astrid. La princesse Astrid, qui est aussi la sœur cadette du roi Philippe de Belgique, emmène environ 300 hommes d'affaires de 127 entreprises. C'est la plus grande visite de la Belgique. la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, qui accompagnait le président lors de la réunion, a déclaré que le président a convenu d'augmenter les relations économiques, en particulier dans les domaines du commerce et de l'investissement. Retno Marsudi expliquait le nombre de transactions commerciales indonésiennes et belges en 2015 a atteint 1,67 milliards de dollars américains, tandis que le chiffre d'investissement était d'environ 7 millions de dollars américains. Le président a également exprimé l'espoir qu'il y avait l'augmentation des relations commerciales bilatérales qui sont mutuellement bénéfiques entre l'Indonésie et la Belgique. Selon Mme Retno, l'amélioration de ces relations peut être faite, entre autres, à travers l'augmentation de l'interaction entre les communautés d'affaires des deux pays, ainsi que l'expansion de l'accès au marché pour les produits indonésiens tels que les chaussures, le caoutchouc, le textile, l'électronique et les meubles. Le président Joko Widodo a invité les investisseurs belges à augmenter ses investissements en Indonésie dans les secteurs stratégiques tels que les infrastructures, les télécommunications, l'industrie cinématographique et des matières premières. Dans le domaine de la coopération culturelle, le président a bien accepté la coopération de la culture indonésienne-belge, y compris le parc avec le thème « Indonésie, royaume de Ganesha » dans le parc de Paeri-Daiza en Belgique. Le président a également salué l'élection de l'Indonésie en tant que pays d'honneur du festival d'Europalia 2017. Qui sera optimisé comme un moyen de promotion de la culture et du tourisme de l'Indonésie. La veille, soit lundi 14 mars, la princesse Astrid a rencontré le vice-président Yusuf Kalla à Jakarta. Lors de la réunion, Yusuf Kalla a exprimé son appréciation parce que la princesse Astrid a choisi l'Indonésie comme une destination de visite de courtoisie du royaume de Belgique. Yusuf Kalla évalue que jusqu'à présent, les relations entre l'Indonésie et la Belgique sont très bonnes, en particulier dans la coopération de la construction de l'usine de chocolat en Indonésie. À cette fin, il encourage l'Indonésie à accroître la coopération de chocolat et la coopération d'autres ressources naturelles. L'Indonésie est également un pays ouvert qui a une longue histoire de coopération avec la Belgique. D'autre part, le ministre de l'Industrie, Saleh Houssin, a affirmé « Jusqu'à présent, les investisseurs belges se sont intéressés au secteur de l'électricité dans quelques régions indonésiennes. » En fait, selon Saleh Houssin, le secteur de l'électricité est encore excellent pour les investisseurs de la Belgique. Actuellement, la Belgique a participé à la construction de l'électricité à Sumatra et Kalimantan. À cette coopération actuelle, la Belgique a le projet de soutenir le programme de l'électricité de 35 000 MW. Serviteur, c'était la mise au point pour ce soir. Et après, nous vous présentons le rappel des titres de l'actualité. Le gouvernement indonésien, via le ministère des Affaires étrangères, a nié l'existence de l'accord avec Israël sur la visite du ministre des Affaires étrangères, Mme Retno LP Marsudi, à Jérusalem pour rencontrer les hauts fonctionnaires israéliens, en plus de l'investiture du consul honoraire de l'Indonésie en Palestine. Le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, Armanata Kristiwa Nasir, a déclaré jeudi que le plan et la préparation de la visite du ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a été effectué par l'intermédiaire d'une voie diplomatique officielle par l'ambassadeur d'Indonésie en Jordanie et en Palestine depuis le décembre 2015, non pas par l'intermédiaire en accord avec le gouvernement israélien.
Menurut artikel tersebut bahwa ini merupakan suatu kesepakatan.
Selon l'article, qu'il y avait un accord, je veux souligner que tout d'abord, il n'y avait pas de réunion entre le ministère indonésien des Affaires étrangères avec le gouvernement israélien au sujet de la visite du ministre indonésien des Affaires étrangères à Ramallah. Deuxièmement, je veux souligner qu'il n'y avait pas de discussion encore moins d'accord avec le ministre indonésien des Affaires étrangères concernant la visite à Jérusalem avec la partie israélienne. Armanatak Sewanasir a souligné que le gouvernement indonésien a préparé plusieurs projets liés à la visite du ministre indonésien des Affaires étrangères à Ramallah en Palestine, dont l'un est à l'aide d'un hélicoptère appartenant à la force aérienne de la Jordanie qui se rendrait au bureau de la présidence de la Palestine et non par voie terrestre qui doit passer par les points de contrôle israéliens. Plus tôt, le sous-ministre israélien des Affaires étrangères, Zipi Hotovelli, a déclaré devant le Parlement israélien que l'Israël interdit le ministre indonésien des Affaires étrangères à visiter Ramallah parce que l'Indonésie a violé un accord confidentiel entre les deux pays. Selon Zipi Hotovelli, avant la visite du ministre Retno Marsudi en Jordanie, la division de l'Asie du ministère israélien des Affaires étrangères, Mark Sofer, a visité Jakarta pour rencontrer le gouvernement indonésien. Mais cela a été nié de nouveau par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Armanata Kristiawanasir. Selon Armanata Kristiawanasir, le but principal de la visite du ministre Retno LP Marsudi en Jordanie et en Palestine est de tenir une réunion bilatérale avec le premier ministre de la Jordanie, le ministre des Affaires étrangères et le président palestinien, et pour inaugurer le consul honoraire de l'Indonésie en Palestine, Maha Abu Shuseh. Le forum régional du processus de Bali qui se tiendra à Nusa Dua, Bali, les 22 et 23 mars 2016, seront assistés par 44 pays. Le processus de Bali est un forum régional pour renforcer la coopération, faciliter la discussion et diverses questions liées à la traite des êtres humains, la contrebande humaine et les crimes contre l'humanité. À la conférence de presse tenue le jeudi 17 mars 2016 au ministère des Affaires étrangères Jakarta, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Armanata Kristiawanasir, a affirmé que ces 44 États sont les pays membres et observateurs. En outre, 6 organisations internationales ont exprimé leur volonté de participer.
Per hari ini, itu ada 44 negara yang telah konfirmasi akan hadir. Baik anggota maupun observers.
À partir d'aujourd'hui, il y a 44 pays ont été confirmés pour être présents, soit des membres et des observateurs, et 6 organisations internationales. Le nombre de ministres qui y assisteront est 13, 8 sous-ministres et le reste au niveau des hauts fonctionnaires. En outre, Armanata Kristiawanasir a expliqué, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, et son homologue de l'Australie, Julie Bishop, seront coprésidents de ce forum. Le 21 mars 2016, Julie Bishop se rendra en Indonésie pour faire les derniers préparatifs du processus de Bali et discutera également des questions bilatérales entre les deux pays. Les questions qui seront soulevées sont liées au commerce, l'investissement et les échanges d'étudiants. Cette année, le processus de Bali aura lieu pour la 6e fois depuis sa première édition en 2002. Le ministre de la Défense, Riyamizat Riyakudu, a dit que les séparatistes ne devraient pas être autorisés à continuer à exister en Indonésie. Il croit que chaque soulèvement a été orchestré par l'autre pays. Selon Riyamizat, si en Papouasie la mise à feu de groupes armés persiste, les gens seront toujours hantés par la peur. Riyamizat a également mentionné l'importance du programme de défense de l'État qui peut résoudre le problème de la nation à travers l'attitude instillée dans ce programme. Le ministère de la Défense lance une activité Gebiar Aku Indonesia qui est une socialisation de l'activité de défendre l'État pour les jeunes indonésiens avec des approches artistiques et culturelles. Une telle activité sera tenue d'avril à décembre 2016 aux diverses régions d'Indonésie telles que les villes Batu, Surabaya, Semarang, Palembang, Sorong, Medan, Banjarmasin, Pontianak, Bandung et Jakarta. Le ministre de la Recherche, la Technologie et l'Enseignement supérieur, Mohamed Nasir, demande les écoles supérieures de ne pas être spectateurs dans leur propre pays d'envisager la compétition dans le marché libre. Mais elles devraient être en mesure de fournir la concurrence, l'innovation, améliorer la qualité et être en mesure de rivaliser dans le monde d'affaires. Mohamed Nasir, lors de l'inauguration de l'École supérieure d'économie d'être l'Université Prasetya Mulia jeudi à Serpong-Tangerang, Banten, a déclaré qu'en Indonésie, il y a plusieurs 134 universités publiques et 4200 universités privées. Ceci devrait encourager le progrès technologique et les affaires. Il souhaite que les universités puissent créer l'innovation, la créativité et la compétitivité dans le marché libre d'ASEAN, aussi bien ceux en Asie et à l'Europe. Le gouvernement belge a exprimé son intérêt à développer et gérer le port Patimban à Subang, Java Ouest. Ce port deviendra un port international. Il est désigné comme un remplacement du port Cilamaya à Karawang, Java Ouest, qui est échoué à construire. Le secrétaire d'État pour le commerce étranger et l'investissement pour Bruxelles de Belgique, Cécile Jodogne, a déclaré jeudi à Bandung qu'il avait reçu des informations que le port Patimban sera financé d'investissements du Japon. Néanmoins, il y a la possibilité pour la coopération dans le développement et la gestion. Cécile a expliqué, elle peut apporter une contribution dans le développement du port Patimban, car un certain nombre d'entreprises belges ont réussi dans la gestion des ports à Singapour et Dubaï, l'Émirat arabe uni. L'Indonésie et l'Australie ont convenu de réactiver l'accord global de partenariat économique Indonésie-Australie pour construire des partenariats mutuellement bénéfiques en priorisant la créativité et l'innovation. Le ministre du Commerce, Thomas Lembong, dans un communiqué, a affirmé jeudi que la réactivation de l'accord global de partenariat économique Indonésie-Australie est faite sur deux principes principaux. D'abord, l'Indonésie et l'Australie vont assurer que l'accord global de partenariat économique Indonésie-Australie se déroule bien et fournit les résultats maximum dans les échanges de biens et de services, la coopération de l'investissement et de l'économie, ainsi que des avantages pour les deux parties. Le deuxième principe, l'accord devrait également être construit en prêtant attention aux accords multilatéraux et régionaux, ainsi que des précédentes négociations entre les deux pays. Thomas Lembong a expliqué, comme la première étape, les deux pays ont convenu de donner mutuellement les résultats qui ont été obtenus par l'intermédiaire des accords de libre-échange. Secrétaire, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Pour la rubrique suivante, écoutez la rubrique culturelle et l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec une rubrique quotidienne, le magazine culturel. Et ce soir, nous vous invitons à visiter Sulawesi Central. Donc, restez toujours avec nous. Le service mondial de Radio République Indonésie, La Voix d'Indonésie. Outre par l'intermédiaire de long cours, vous pouvez aussi nous capter par l'intermédiaire de live streaming à www.boi.co.id. Donggala, la capitale de la région Donggala, sera lancée d'être destination touristique importante en province Sulawesi Central dans les prochaines années. Le lancement sera mené en octobre 2016. Donggala est déclaré comme ville touristique en raison de son grand potentiel comme une vieille ville à Sulawesi Central. De plus, la ville Donggala a un très grand potentiel touristique diversifié, soit le tourisme de plage, soit la beauté naturelle sous-marine, soit le panorama de la nature, soit l'art et la culture de la communauté. De divers potentiels touristiques possédés par la région Donggala, il y a un intérêt touristique unique, le centre Mer Donggala, qui se trouve dans le hameau Simbe, au village Limboro, sous-district Banawa Central, 45 km de la ville Palu, capitale de Sulawesi Central. On peut prendre le transport de terre pendant 45 minutes à atteindre le centre mer Donggala. Les infrastructures là-bas sont assez complètes. Il y a les hébergements, les restaurants, les parcs de stationnement et des toilettes. Le centre mer Donggala est un puits géant ayant le diamètre de 10 mètres et la profondeur d'environ 7 mètres. Ce puits est naturellement formé avec les pierres sculptées. L'eau dedans est bleu clair et goûtée salée comme l'eau de mer. Il est dit qu'il y a un trou qui connecte la plage et centre mer, car la distance de la plage n'est qu'environ 500 mètres. Une autre particularité du centre-mer Donggala est l'eau dans le puits va monter quand l'eau de mer recule et va reculer quand l'eau de mer monte. Voyager au centre-mer Donggala, vous pouvez nager ici, mais avec l'expertise particulière, car la profondeur n'est pas normale. N'oubliez pas d'apporter cette eau comme souvenir. La communauté locale croit que l'eau dans les puits peut traiter toutes sortes de maladies. Pas loin du centre mer Donggala, il y a la belle plage Tanjung Karang. Cette plage a de sable blanc et devient l'un des lieux de prédilection pour la plongée en apnée et la plongée. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant sur l'Indonésie, à la même heure et même fréquence. Merci de votre fidélité. À demain! Couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur et en pour titre la tendance d'application en ligne en Indonésie. La technologie qui évolue si rapidement en Indonésie rend toutes les couches de société peuvent facilement accéder à une variété d'informations sur quoi que ce soit dans le monde. Même aujourd'hui, les gens dans le monde entier ont connecté sans le savoir par le biais de divers médias sociaux. L'émergence de diverses applications qui peuvent être accessibles via le toucher d'un doigt sur l'écran du téléphone mobile a commencé lentement mais sûrement à maîtriser les différents secteurs dans le monde, y compris l'Indonésie. Ce développement sera un dilemme s'il n'est pas contrôlé par les autorités. La facilité et la commodité d'utilisation de l'application en ligne est également perçue par la majorité des Indonésiens qui vivent dans les grandes villes. Le développement de l'utilisation de cette application en ligne n'est pas distribué uniformément à tous les coins de l'Indonésie. Si cela continue à se développer, dans un court temps, toute la communauté dans toute l'Indonésie peut l'utiliser. Le gouvernement indonésien estime également qu'il est une bonne étape pour le peuple de l'Indonésie à être la société intelligente et alphabétisée. De plus, le gouvernement indonésien a fait le rapproche à l'un des outils dans le plus grand fournisseur d'information du monde pour développer une application pour les pêcheurs indonésiens. Le service d'application de votre téléphone mobile est facile à utiliser, mais est-ce qu'il y a encore des gens qui sont préoccupés par l'ère de l'ouverture dans le cyberespace? Comme toute l'évolution de la technologie dans la société, le niveau de la criminalité dans le cyberespace augmente certainement. Le gouvernement du monde entier devrait être en mesure de combler les cartes dans le monde virtuel pour que le crime ne se développe pas. Cette technologie est très importante d'être développée, mais bien sûr, nous ne pouvons pas non plus pleinement dépendre de cette technologie. Restez vigilant, prudent et intelligent dans le choix de chaque application que vous allez utiliser est une bonne étape pour le confort. Serviteur, c'est à l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Comme la fin de notre émission, nous vous présentons la rubrique de distraction.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis, la voix de l'Indonésie de Katorang Dumong. Voici le programme de magasin de musique, édition de vendredi, avec moi, Muhammad Suwartono. Ce soir, on vous introduit la chanteuse de rythme de dangdut, Cupi Cupita. Chers amis, n'oubliez pas de rester fidèle à l'écoute de nos émissions. Vous pouvez entendre nos émissions via émetteur en courte sur 9525 kHz ou bien via le streaming audio www.voi.co.id ou bien sur via l'application RRI Play sur votre appareil de gadget ou portable. Eh bien, chers amis, avant de continuer notre rencontre, allez écouter une chanson intitulée Goyang Basah. Bonne écoute.
Oh, yeah.
Chers amis, la belle Chupi-Chupita est née à Bandung au 15 juin 1994. Elle a commencé sa carrière comme chanteuse grâce à son premier piece intitulé Goyang Basah. Chupi-Chupita est célébrée jusqu'à la Malaisie. Non seulement célèbre en Russie et Malaisie, elle est aussi comme ambassadeur de la marque de produits miniers de la Malaisie. Chupi-Chupita a révélé que Goyang Basah, c'est-à-dire on danse et bouge jusqu'à la sueur. Eh bien, chers amis, avant de continuer notre rencontre, écoutez d'abord la chanson de Chupi-Chupita intitulée Melayang Gue. Bonne écoute. Chers amis, avec le succès dans le premier album, Chupi-Chupita a publié son deuxième album, dont le titre est « Detak Jantungku ». Cette chanson raconte sur la femme qui est vierge de son amant, mais son garçon la fait toujours mal au cœur. Alors cette femme essaie de se déplacer au futur. Grâce à cette chanson, Chupi-Chupita est prête à présenter à la scène internationale. Puis elle voudrait promouvoir ses chansons dans les trois pays près de l'Indonésie, ainsi que Malaisie, Singapour et Brunei Darussalam. Chers amis, la voix de l'Indonésie dans quatre coins du monde, c'était l'histoire de chanteuse Chupi-Chupita. Merci de votre fidélité et attention. Mais avant de vous quitter, écoutez les deux dernières chansons de Chupi Chupita intitulées Detak Jantuku et Pusing Blimbing. Bonne écoute et au revoir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id. toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
C'est la fin de notre émission. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 2011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.